cette semaine dans les informations, il y avait l'histoire de qui est revenue dans les informations, l'histoire de cette, ces deux avions qui se sont écrasés en air dans un espace aérien de la Suisse. Ils sont tombés en Allemagne. Il y avait quelque chose comme 70 personnes qui sont mortes. Et donc, il y a eu le procès contre les personnes, les contrôleurs, on dit contrôleurs, les gens qui gèrent l'espace aérien, OK? OK, on va dire contrôleurs. Et donc, en fait, il devait y avoir 9 personnes dans ce procès, mais il n'y avait que 8. Et donc, c'était une question de responsabilité. Qui était responsable de la mort de ces personnes? Alors, la première personne jugée, c'était justement la personne qui travaillait cette nuit-là. Parce que cette nuit-là, il y avait 3 qui prenaient leur café et qui ont laissé une personne pour gérer tout l'espace aérien. Et donc, c'était lui-même, eh bien, le parent russe de deux enfants et la femme. Donc, sa femme et deux enfants étaient tués dans cette chose. Eh bien, il est venu tuer le contrôleur. Il a trouvé où il habitait et puis il l'a tué. Et puis dans le procès, en fin de compte, les autres contrôleurs étaient trouvés innocents. Ils n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé. Eux, ils travaillaient dans un milieu qui était mal géré. Et donc les 3, donc plus haut rang, là, ils étaient condamnés, mais un an avec sursis. Et le responsable était condamné un an plus sursis, avec sursis, plus il faut payer de l'argent. Parce que c'était le responsable. Là, on parle de la responsabilité. Évidemment, l'ouvrier qui était assis là a fait l'erreur. Parce qu'il devait gérer, je crois que c'était, je ne sais plus, 15 avions en même temps, quelque chose comme ça. Donc, c'était un problème. Il faisait son travail le mieux qu'il pouvait faire dans les circonstances qu'on lui a données. Donc, il n'était pas responsable parce qu'il avait d'autres choses à faire en même temps. Et donc, les autres aussi n'étaient pas responsables, bien que c'était leur travail, mais leur moment de pause café était à ce moment-là. C'est les circonstances qui ont fait que la gérance de la situation rendait la situation à tel point, une situation tellement mauvaise qu'il y avait cet écrasement, accident dans l'air. Oui, j'ai du mal avec ce mot-là. Mais les responsables étaient responsables. Les moins responsables étaient donc moins responsables et le plus responsable était le plus responsable. Nous allons parler des hommes, des maris. Donc, on parle de la responsabilité. Et c'est dans ce sens-là que j'ai recité, j'ai compté cet événement. Okay? Nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais apporter ce message aussi rapidement que possible. Mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que déjà j'ai pris la première heure à aborder le sujet. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà fait. Et c'est en Christ. OK? On progresse. Nous qui sommes des chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Il nous a sauvés, nous a pardonnés, nous a donné la vie éternelle. Et le Saint-Esprit nous a mis dans le corps de Christ. On est en Christ aujourd'hui et ses bénédictions sont à notre disposition. Il dit donc dans chapitre 4 et le verset 17, chapitre 4 et le verset 17, la seconde partie, donc après les deux points, vous ne devez plus marcher comme les païens. Le chrétien ne doit pas marcher, vivre comme un païen. OK? C'est net. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une digne manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce sont des vérités pour tous les chrétiens. Mais encore plus vrai, si on peut dire ça, quand c'est un homme et une femme chrétienne, un homme chrétien et une femme chrétienne, ensemble, c'est encore vrai. Et donc, on devrait s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toutes ces choses sont vraies pour le couple chrétien. Chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc on cite l'idée d'être sage. Verset 17, seconde partie. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On veut la sagesse. On veut connaître la volonté du Seigneur. Verset 18, la seconde partie. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah voilà. Avec la sagesse, on va savoir quelle est la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pas simplement que nous soyons chrétiens, mais que nous marchions avec Dieu. Et donc, il y a une suite de participes, comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, à partir de cette phrase remplie de Saint-Esprit, en vous entretenant, dans le grec c'est les participes, en chantant, en célébrant, en louant, en rendant continuellement grâce à Dieu, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et par la suite, il y a les applications de cette doctrine. Être rempli de cet esprit, la plénitude de cet esprit, il y a les choses que l'on fait quand on est rempli de cet esprit. On chante, on rend grâce à Dieu. On est soumis les uns aux autres. Par exemple, la femme est soumise à son mari. Et le mari exprime la bonté envers sa femme. Voilà être rempli du Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 5. Et c'est là que nous entrons donc dans le texte. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie. Que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est-à-dire Christ nourrit et prend soin de l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le modèle donné, l'exemple, c'est que Christ et l'Église sont une seule chair. Christ la tête, le corps étant l'Église, deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des maris dans leur rapport avec leur femme. Dans un monde parfait, cette relation serait toujours parfaite. Mais nous ne nous trouvons pas dans un monde parfait. Je vous étonne. Non. Nous n'avons pas des femmes parfaites non plus. Et nous ne sommes pas les hommes parfaits. Chacun de nous a nos points forts et nos points faibles. Et pourtant, Dieu nous adresse sa parole à nous les hommes. Dieu attend de nous une conduite chrétienne mûre. Je dis mûre, je ne dis pas parfait, mais mûre. Si nous marchons sur une autre route que celle de la volonté de Dieu, c'est rater la cible que Dieu vous a fixée. Rater la cible, ça veut dire du péché. Or, comme nous avons appris la semaine dernière que la première responsabilité de la femme mariée est domestique, nous apprenons aujourd'hui que la première responsabilité de l'homme marié est de pourvoir pour la protection, le confort et le bien-être de sa femme. Autrement dit, l'homme doit aimer sa femme. Cet amour s'exprime. Il s'exprime par des actes. Je parlais avec Bill Hansen l'autre jour. Et il dit, Billy, tu sais, on parle beaucoup de l'amour, mais dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a jamais, pas même un seul mot, amour. Mais on voit l'amour à travers le livre parce que c'est les actes des chrétiens à répondre à l'amour de Dieu dans le monde. L'amour s'exprime par les actes, les expressions de la bonté. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit, l'amour ne rend point le mal pour le mal. Il dit, l'amour ne rend point l'injure pour l'injure. Colossiens chapitre 3 verset 19 dit, Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. C'est ça que la parole de Dieu dit aux hommes. Rendre le mal, rendre l'injure, s'aigrir contre elle, ces expressions signifient que la femme n'est pas un homme et elle ne verra jamais la vie à travers les yeux masculins. Voilà. Ça veut dire que le conflit sera toujours dans les conflits, dans les couples. Depuis que le péché est entré dans le monde, le conflit entre les deux sexes existe. L'harmonie parfaite d'Éden est disparue. Comme nous avons lu dans Genèse chapitre 3, verset 16, les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais le mari doit dominer sur elle. Vous avez le conflit là. Tous les deux veulent dominer. Elle, son désir est de dominer sur lui et lui doit savoir dominer sur elle. Et dans la nature pécheresse, dans le monde entier, ça se traduit dans l'abus des femmes. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Là, on a une déclaration, mais on n'a pas une permission d'abuser de la femme. C'est le conflit d'autorité qui se trouve dans la nature pécheresse. L'injure, l'aigrissement, le mal contre votre femme est une expression de la nature pécheresse. Ce sont les façons du monde, de l'homme inconverti. Le Christ enseigne un chemin bien différent à ses disciples. Regardez dans Colossiens chapitre 3. Versets 12 à 15. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Attention, vous pensez que ça part que dans le bâtiment de l'Église ou que dans le monde. Ça peut dire pour tous les chrétiens, tout le temps, y compris dans le couple. Tous les chrétiens, tout le temps. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Si les couples pratiquaient de tels enseignements chrétiens, n'est-ce pas? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, si on lisait encore un petit peu plus loin, pour que vous sachiez, je ne m'éloigne pas du sujet, il dit au verset 18, hein, deux versets plus tard, trois versets plus tard, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. » Et verset 19, « Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. » C'est tout à fait le contexte. C'est le même passage que Paul, par le Saint-Esprit, a écrit dans Éphésiens chapitre 5. C'est la même chose. C'est dit différemment, dans un autre ordre, avec d'autres détails, mais c'est toujours la même chose. Aussi dans 1 Pierre, chapitre 3 et verset 9. 1 Pierre, chapitre 3 et verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est une grande faute quand il y a dans un couple l'un ou l'autre qui injure déjà un péché, son mari ou sa femme, et l'autre riposte avec un autre injure. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas le chrétien. Ça, c'est agir d'après la nature pécheresse. On doit confesser nos péchés. On doit mettre à Dieu et à notre conjoint quand nous péchons, pour que nous puissions être pardonnés, pour qu'il n'y ait pas de rancune qui s'accumule chez le conjoint, et pour que Dieu puisse agir d'une manière à nous bénir. C'est ça qu'il dit. C'est à cela, c'est-à-dire ce mauvais traitement envers les chrétiens, vous êtes appelés, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Pour avoir la bénédiction, il faut savoir vivre. Alors, à la fin, ça veut dire que vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin pour être un vrai chrétien, c'est-à-dire un vrai disciple de Jésus-Christ qui met en pratique la parole de Dieu, vous avez besoin du Saint-Esprit. Frères, votre relation avec votre femme est une relation humaine, oui, sociale, oui, émotionnelle, certainement, mais spirituelle. Dans Matthieu 19, verset 6, ce que Dieu a joint, que l'homme ne sépare pas. Dieu a joint. Ça, c'est un acte de Dieu. Vous savez, le mariage, ce n'est pas que les chrétiens qui sont mariés. Hein? Dans le texte de Jésus, ce que Dieu a joint, que l'homme ne sépare pas. Ça veut dire que tous les mariages, que ce soit chrétien ou païen, sont respectés. Dieu constate. Hein? Mariage, mariage, mariage. Ce sont des couples dans le monde entier, sans rapport avec leur religion. Dans Éphésiens chapitre 5, la partie que nous avons lue tout à l'heure, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une relation spirituelle. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est une chose spirituelle. Ce n'est pas matériel, vous ne pouvez pas acheter ça. Hein, ils ont essayé ça dans le acte des apôtres, c'était écrit Simon Magnus ou quelque chose comme ça, qui voulait acheter le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Soyez remplis de cet esprit en vous entretenant par les psaumes, en chantant, en rendant grâce à Dieu, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et le premier exemple d'être rempli de cet esprit, femme en soumettant à votre mari. Je ne veux pas, dit la femme. Ah ben, vous ne pouvez pas être rempli de cet esprit. C'est aussi simple comme ça. Parce que la Bible dit, en vous soumettant, par exemple, la femme soumise au Saint-Esprit, à son mari. Excusez-moi. Second exemple d'être rempli de Saint-Esprit, le mari par amour pour sa femme. Le mari en cherchant la bonté, le bien pour le compte de sa femme. En revanche, quand vous avez une mauvaise relation avec votre femme, vous ne pouvez pas être rempli de Saint-Esprit. C'est quand même drôle, hein, que, je ne dis pas c'est toujours comme ça, mais souvent quand il y a une dispute entre moi et Sophie, c'est dimanche matin. C'est curieux ça. On peut passer tout le mois, pas sans problème, et vient un dimanche matin et un dispute. Hein? Ben, peut-être c'est le stress d'arriver à l'heure, tout ça, je ne sais pas. Mais question de combat spirituel, c'est drôle que ça tombe dimanche matin, pour qu'on puisse arriver à l'église et ne pas se remplir du Saint-Esprit. Donc, c'est curieux, ce phénomène. Hein? On arrive à gérer ça. Marie, aimez votre femme dans la crainte de Christ. N'avez-vous aucun respect pour Christ? Pensez à ça. Pourquoi doit-on aimer sa femme? Parce que j'aime Jésus. Parce que je suis soumis à Christ. Parce que je veux être rempli de Saint-Esprit. Je vais faire du bien à ma femme. Comment voulez-vous, messieurs, que votre femme soit soumise à son chef si vous-même, vous n'êtes pas soumis à votre chef? Vous montrez l'exemple. Soyez soumis à Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Montrez la bonté envers votre femme. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la fin du verset dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Hein, vous avez douté quand j'ai dit ça tout à l'heure, que le mariage est une relation spirituelle. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Si votre mariage est en mauvaise étape, ça veut dire que Dieu n'écoute pas vos prières. C'est marqué dans, je crois que c'est Ésaïe chapitre 59, verset 2, quelque chose. C'est vos péchés qui séparent entre vous et votre Dieu et qui ne peut pas entendre vos prières. À mon avis, il faut travailler sur nos mariages. Dieu n'écoute pas nos prières. Il ne nous remplit pas de son esprit. Pourquoi? Parce qu'on a des mauvais mariages. Dieu, en créant l'homme en premier, lui a donné la responsabilité, l'autorité. La femme, en cédant à la tromperie de Satan, est interdit d'avoir l'autorité sur son mari ou sur les hommes dans l'Église. Or, messieurs, cette responsabilité, cette autorité est votre devoir. C'est votre devoir. Les responsables dans cette centre de contrôle aérienne, les responsables avaient le devoir de protéger les gens qui étaient dans les avions. Ils n'ont pas fait. C'est votre devoir. Vous ne pouvez pas fuir ce devoir. Alors, vous êtes né homme, vous êtes né femme, à chacun ses responsabilités. Même si vous souhaitez changer cela, vous ne pouvez rien faire. Dieu vous a fait femme, vous êtes femme, c'est comme ça, vous avez des responsabilités. Dieu vous a fait homme, c'est comme ça, vous êtes homme, vous ne pouvez pas le fuir, vous avez des responsabilités. À chacun sa charge. De la même manière que la femme est commandée à se soumettre à son mari, le mari est chargé d'être chef de sa femme. Vous voulez qu'elle se mette à vous? Elle se soumette à vous? Eh bien, elle voudrait que vous dirigez bien. Or, monsieur, encore, comment voulez-vous que madame suive si vous ne dirigez pas? J'ai entendu cette expression, l'attitude des subordonnés reflète l'exemple de la direction. La faute est dans la direction. Alors, par exemple, vous voulez aller à Charles de Gaulle. Vous prenez l'autoroute A13 et puis votre femme vous dit, tournez là, prenez la A12. Et vous prenez la A12. Eh bien, c'est vous le conducteur. C'est votre faute. Ben bien, c'est la faute à vous deux. C'est la faute à vous deux. Oui, d'accord, ok? D'accord, c'est la faute. Mais qui est responsable? C'est lui qui est derrière le volant. Même si votre femme prend toutes les décisions dans votre famille, même si elle prend toutes les décisions, c'est vous que Dieu considère responsable pour toutes ces décisions-là. C'est vous qui sont responsables. Parce que vous êtes homme par création. Donc, monsieur, ne soyez pas irresponsable. Dans la Bible, la femme, très intéressant, elle dépend toujours d'une autorité. Dans la Bible, la femme dépend toujours d'une autorité. Le père, le mari, le fils, seule la prostituée est vue comme sans autorité. Prenez comme exemple Marie, la mère de Jésus. Marie, étant jeune fille, elle était soumise à son père. Oh, on le savait! Ah, bah, parce que Dieu a choisi cette jeune fille-là pour faire venir le Christ dans le monde. Et c'était une très bonne jeune fille. Okay? Elle était soumise à son père. Puis, mariée, elle était soumise à son mari, Joseph. Puis, étant veuve, la responsabilité de Marie est tombée sur Jésus. Et quand Jésus était sur la croix en train de mourir, il a acquitté sa responsabilité en passant la responsabilité de sa mère à Jean, qui est devenu donc le nouveau responsable pour Marie. C'est très intéressant, cette suite de... Cette dame n'était pas indépendante. Elle était toujours sous l'autorité. Elle dépendait toujours d'un homme. Ça, c'est dans la Bible. Acceptez donc vos responsabilités, monsieur. La faillite des hommes dans leurs responsabilités, hein, la faillite des hommes envers les femmes et l'abus des femmes par le mari a suscité le mouvement féministe. Il faut être honnête, c'est ça. Le féminisme et l'insoumission. Elles le disent tout le temps. Je ne vous apprends rien. Hein? Le féminisme est l'insoumission de la femme à l'homme. La femme veut être, elle se veut indépendante, libre. Et vraiment, vu les circonstances actuelles de l'irresponsabilité et de l'égoïsme des hommes, on ne peut pas trop les plaindre. Hein? Elles ont peut-être quelque part, je dis quelque part, dans un monde corrompu, elles ont quelque part raison. Mais ceci ne doit pas être le cas chez les chrétiens. Hein? Vous savez, quand une dame a cédé sa vie à monsieur, et pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, elle était son esclave, on va dire. Hein? Eh bien, un jour, il dit, oh, j'ai trouvé une jeune femme, au revoir. Elle n'a rien. Il le laisse comme ça. Vous voyez pourquoi les dames deviennent féministes? Quand on le laisse comme ça, abandonné, c'est inadmissible. C'est une horreur. Mais combien de fois c'est arrivé? Hein? C'est pour ça que je dis, quelque part, on peut comprendre pourquoi elles veulent être féministes quand les hommes sont égoïstes comme ça. Okay? Si Dieu vous a donné une femme, ou si Dieu va vous donner une femme, hein, les jeunes hommes, n'est-ce pas? Hein? Elle vous fait confiance. Ou elle va vous faire confiance. Hein? Elle vous fait confiance. Elle cède son avenir à votre guise. Il ne faut pas la décevoir. Il ne faut pas gâcher son avenir non plus. Il ne faut pas la trahir. Pour gagner votre femme, vous avez fait bien des efforts. Hein, pour gagner, pour avoir cette dame-là, hein, vous avez dit des choses, fait des choses, fait des sourires, je ne sais pas quoi. Hein, mais quelque part, vous avez fait quelque chose pour l'avoir. Hein, mais maintenant que vous l'avez, hein, ben, pour garder votre femme, vous devez continuer à faire bien des efforts. Oh non, je vais prendre ma retraite maintenant. C'est à elle à travailler maintenant. Oh, mais non, ça ne marche pas. Et ça montre que vous ne l'aimez pas quand vous ne faites rien pour son bien. On ne cherche pas les hommes parfaits, mais on cherche les hommes. Et que les hommes puissent mûrir, n'est-ce pas? Comme dit la publicité de L'Oréal, elle vaut bien. Des compliments, des gentillesses, reconnaissance. Vous savez, je dis à mes garçons, vous devez apprendre à être reconnaissant avec votre mère. Parce que nos relations avec le mère ou même avec leur sœur va être reproduite dans la vie de leur femme. Leur croissance de toute cette jeunesse est un entraînement envers l'avenir. Hein? Et s'ils n'ont pas de respect ou de reconnaissance envers le mère, ils n'auront rien pour leur femme. Passez du temps avec elle. Le temps, c'est tout ce que vous avez. Ah, bon, peut-être vous êtes riche, vous avez peut-être l'argent. Bon, partagez votre argent aussi. Mais au moins, partagez votre temps avec elle. Et écoutez-la. Elle veut parler avec un adulte. Prenez-la dans vos bras et tenez-la. Tenez-la, c'est ça le mot? Hein? Dans vos bras. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Vous savez, Jacques dit, s'il vous manque de la sagesse, demandez à Dieu. Hein? Il va vous donner tout ce qu'il faut. Hein? Il faut demander quand même. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Hein? Les hommes ne seront jamais les femmes et les femmes ne seront jamais les hommes. Donc on ne peut pas se comprendre, pas tout facilement. Mais en faisant un effort, on arrive quand même à s'entendre. N'est-ce pas? Mais ça prend de la sagesse. Ça veut dire que ça prend un effort. Si votre femme vous quitte, c'est votre faute. Vous êtes le responsable. Oui, c'est vrai qu'elle est allée coucher avec un autre homme. Elle est en faute. Mais où est la faute du faute? C'est le chef qui n'a pas bien géré sa famille. Vous savez, le président Nixon, hein? Il avait sur son bureau c'est une expression en anglais, the buck stops here. Donc c'est moi le responsable. Alors vous savez ce qui est arrivé à la fin de son mandat? Il a dû démissionner. Parce qu'il y a des choses qui étaient faites plus bas. Et bon, on aurait dit, c'est pas sa faute. Mais il a dit, je ne savais rien. Il a menti. Vous savez? Et il était le responsable. Et il a perdu sa place comme président des États-Unis par son irresponsabilité. Il était responsable. Si votre femme vous quitte, c'est votre faute. Vous êtes l'homme, vous êtes le responsable. Vous n'avez pas eu la sagesse pour la garder. Vous n'avez pas fait l'effort nécessaire pour la garder. Vous n'avez pas fait les sacrifices pour la garder. Vous n'avez peut-être pas su la protéger. Je connais quelqu'un, il a fait l'internet pour sa femme et puis elle commence à faire le chat, puis elle a trouvé un homme et puis elle a quitté son mari pour cet homme qui écrivait bien. Il n'a pas su protéger. Parce que c'était un séducteur, un prédateur qui a pris sa femme. Vous n'avez peut-être pas su répondre à ses besoins. Vous n'avez pas su la satisfaire. Pour ainsi dire, vous êtes le conducteur dans votre couple. Vous n'avez pas su maîtriser votre voiture. Alors, avant qu'elle vous quitte, si c'est pas trop tard, donc, ou encore plus, si elle vous a quitté, vous devez tout faire. Vous devez tout faire en ce qui concerne la bonté, comme la parole le dit ici. Hein, il ne faut pas aller la tuer, il ne faut pas aller la massacrer, il ne faut pas aller taper sur l'autre personne. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Vous devez tout faire en ce qui concerne la bonté pour regagner votre femme. Faire, refaire, faire encore ce qui est nécessaire avant qu'il en soit trop tard. Vous savez, dans le texte Éphésiens chapitre 5, Jésus est le modèle. Il y a un échange entre l'idée du couple et l'idée de l'Église avec Jésus. D'accord? Et il nous dit que Jésus est allé jusqu'à la mort pour nous sauver, pour nous récupérer, pour nous racheter. Et il dit que l'homme doit aimer sa femme ainsi, jusqu'à la mort. Des fois, je me pose des questions. Bon, on ne veut pas être agressif. On veut être plus ou moins pacifiste, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un me donne une tape sur un joue, une claque sur une joue, donc Jésus dit, on joue une autre. Mais quel est le rapport avec ma famille? Si quelqu'un veut tuer mon fils, ou quelqu'un veut violer ma femme, est-ce que je reste là? Bon, écoute, hein, voilà. Et puis j'ai un autre enfant là, vous pouvez violer aussi. Non, mais je me pose la question, à quel point est-ce qu'on va à ces choses-là? Eh bien, la première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est de protéger sa famille. C'est pas le pacifisme. Vous êtes d'accord, je pense. Hein? Vous savez, c'est pas toujours que les gens arrivent à cette même conclusion. Hein? Les anabaptistes qui étaient pacifistes à l'extrême, il aurait dit, je fais rien. Attention. En contrepartie, madame, s'il vous plaît, vous ne devez pas attendre à ce que votre mari soit parfait ou qu'il soit Superman. Je vais vous lire quelques versets de la parole. Romains chapitre 12, verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Vous savez, si madame désire des choses élevées, et elle pousse toujours, pousse son mari pour avoir plus, elle n'est jamais satisfaite. Ça, c'est pas bon pour votre couple. Si Dieu vous donne, d'accord? Si Dieu vous donne pas, d'accord? Soyez satisfaite, madame. Soyez satisfaite avec ce qui est humble. Je ne suis pas contre la richesse ni les biens, c'est pas ça. Hein? Mais c'est qu'on doit être satisfait déjà avec ce que Dieu nous donne. Ne pas être attiré ou aspiré vers ce qui est élevé. Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement. Vous rigolez aussi. Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. C'est beau. On n'a pas besoin de lire ça dans notre église, mais vous savez, on habite dans un monde qui est plein de ça. C'est l'influence partout, et quand vous regardez trop la télévision, eh bien vous êtes, on est en train de vous endoctriner dans ce même système. Bon, d'accord, mais le point principal ici, c'est loin de la luxe. Je suis toujours, ça me gratte sur les nerfs. Quand j'étais à cette église en Californie, et il y avait une dame qui était très riche, qui a donné l'argent pour une partie du bâtiment, elle avait sa place juste là, à côté, l'entre l'église là, et pour son Rolls Royce, juste là. Ça me gratte encore aujourd'hui. Je n'aime pas ça. Déjà, c'est le luxe. En voiture, je ne sais pas si on peut avoir une voiture plus luxueuse d'une toute neuve Rolls Royce. Hein? Loin de la luxe, des querelles dans les familles. Hein? On a des disputes dans nos familles, on a des problèmes dans nos familles. Et la parole de Dieu nous dit, loin des querelles. Bon, vous n'avez pas le problème de luxe, d'accord, mais peut-être vous avez le problème des querelles entre vous deux, ou avec vos enfants. Et des jalousies, vous savez, excusez-moi de le dire, mais on a une maison parce qu'on veut être pasteur, missionnaire, on voulait recevoir les gens chez nous. Mais ça fait des deuxièmes fois qu'on est à la maison. Et chaque fois, certaines personnes étaient jalouses du fait qu'on vit dans une maison. J'ai jamais compris ça. Pourquoi être jaloux? Moi, je ne dis pas contre vous, les personnes concernées ne sont même pas ici. Hein? Mais je dis qu'on a appris ça. Dans chaque endroit où on habitait, la jalousie, c'est de la chair. C'est la nature pécheresse. La jalousie va détruire votre couple. Proverbes chapitre 15 et verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour. Et pour terminer les versets, Proverbes chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec. Ce n'est pas très agréable, hein? Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Amen. Le bonheur dans votre couple, dans votre famille, le bonheur et surtout les relations entre les personnes plutôt que les objets qui vous appartiennent. Hein? Le bonheur n'est pas le matérialisme. Quand vous êtes plus âgé, les relations que vous avez établies avec vos enfants, vous allez récolter, hein? Que ce soit des bonnes relations ou des mauvaises relations. Hein? C'est la même chose avec votre femme. Si vous avez cultivé une bonne relation avec votre femme, vous aurez toujours ce bonheur. Et si vous avez cultivé une mauvaise relation avec votre femme, eh bien vous pouvez vous attendre à la misère. Je vais donner un petit résumé pour terminer. Le mari est la tête de la femme. Donc ici en Éphésiens chapitre 5, on dit que l'homme est chef de la femme comme Christ est chef de l'Église. Le mot dans le grec, c'est le mot tête. D'accord? Le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église. Ça, c'est le verset 23, si vous voulez lire avec moi. Mais c'est ça. L'Église, donc, est soumise à Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas que l'Église est soumise à Christ? Mais quand on lit de ces femmes pasteurs en Hollande et des chrétiens qui adorent les anges, je dirais que non, certaines églises ne sont pas soumises à Christ, comme certaines femmes ne sont pas soumises à leur mari. C'est aberrant, oui, c'est aberrant. Le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est soumise à Christ. Et est-ce que la femme est soumise à son mari? Je ne suis pas ma femme, donc. Hein? Mais à chaque femme de se poser, est-ce que je suis soumise à mon mari? Les maris doivent aimer la femme, verset 25. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ est mort pour l'Église. Verset 26. L'objectif du Christ était d'améliorer, purifier, perfectionner, glorifier l'Église. Ça, c'est le verset 26. Et donc, le mari doit donc chercher le bien-être de sa femme. Verset 28, le mari doit aimer sa femme comme il aime sa propre personne. Je répète, le mari doit aimer. Donc, je vous ai déjà dit beaucoup de fois, donc l'amour, c'est l'expression de la bonté. Okay? Le mari doit faire du bien à sa femme comme il fait du bien à sa propre personne. Et au cas où on n'a pas trop bien compris, verset 29 dit comment on nourrit et prend soin de soi-même. Qui ne mange pas? N'est-ce pas? Qui ne se lave pas? Qui ne se vêtisse pas et ne coiffe pas les cheveux, etc. Hein? Le mari, verset 31, se donne énergétiquement à cette relation homme-femme. Tout est secondaire. Le travail, l'Église, tout est secondaire à cette relation homme-femme. Pourquoi? Ben, Dieu avait créé le couple bien qu'il avait créé l'Église. Hein? Et c'est pour ça que quand il y a un couple, ils doivent décider ensemble dans quelle Église tous les deux vont fréquenter. Pas elle là, lui là. Déjà, on a créé des prémices pour le divorce. C'est à trouver une Église qui convienne à ce couple, ensemble. Un rappel. Tout ce que vous voulez que les hommes ou les femmes, on parle aux hommes, n'est-ce pas? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même. Donc, je le redis. Tout ce que vous voulez que les femmes fassent pour vous, faites de même pour elles. Matthieu 7, 12. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ta femme comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39 et Éphésiens chapitre 5, verset 33. Marie, que chacun aime sa femme. Colossiens chapitre 3, verset 19. Alors aujourd'hui, on termine là. Je voudrais inviter les hommes, donc suite à ce que je viens de vous dire, hein, je voudrais inviter les hommes à venir devant, à s'agenouiller, tu ne peux pas dire ce mot, à se mettre à genoux et confesser vos fautes, non pas à moi, mais devant, là, moi je vais le faire, confessez vos fautes, vos lacunes, vos irresponsabilités à Dieu. Que vous vous présentez à Dieu, comme il est bien dit dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et de demander à Dieu de la sagesse pour l'avenir. Je demande aux hommes, hein, de faire ça. Et donc, je prie, on termine, donc les dames peuvent parler ensemble si elles veulent, mais je demande aux hommes de faire ça, de venir se mettre à genoux avec moi pour demander pardon là où on a besoin, pas ensemble, on ne va pas parler ensemble, mais on prie silencieusement, pour confesser là où il faut, pour se présenter à Dieu, comme Romains chapitre 12, verset 1, et pour demander la sagesse pour l'avenir. Prions. Père Céleste,